Campus Paris.
18h sur Radio Campus Paris, nous sommes le lundi 4 avril, vous nous écoutez donc et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, la relève, c'est encore et toujours une demi-heure avec un jeune talent. Et aujourd'hui, l'émission est un peu particulière puisqu'un jeune talent d'aujourd'hui va venir nous parler de jeunes talents d'hier qui sont devenus entre-temps des grands talents d'aujourd'hui. Ça a l'air très compliqué, mais vous allez voir ou vous allez entendre, c'est finalement très simple. Bonjour Nicolas Godemé. Ah mais on sait que t'es sévère là. Bonjour Nicolas Godemé, vous allez bien ?
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce soir, vous faites beaucoup de choses dans la vie, vous êtes consultant, vous dirigez même je crois une entreprise, vous êtes écrivain aussi, on vous doit la fin des idoles, et vous avez avec le journaliste Dominique Guillou lancé une collection chez Plomb qui s'appelle Fidelio. Vous aviez trop de temps libre ?
Non, c'est plus des passions et puis des projets au long cours qui ont fini par aboutir. Et du coup, voilà, c'est plutôt un plaisir.
Une organisation de fer ?
Une discipline, effectivement, pour tenir le rythme.
Quand on lit les textes dont on va parler après, on sait que vous avez fait des grandes écoles, vous êtes passé par les classes préparatoires, c'est là où vous avez appris à cette discipline, comme vous dites ? C'est connu pour ça, donc je ne sais pas.
Je pense que oui, j'ai dû apprendre, et même au lycée, une certaine discipline dans les grandes écoles, et puis surtout dans l'activité professionnelle ensuite, en effet.
Alors, les livres pour lesquels vous êtes là ce soir, ce sont ceux de la collection Fidelio, dont on vient de parler, donc qui est chez Plomb, qui à chaque fois regroupe 5 textes de 5 auteurs différents, avec à chaque fois une thématique. Donc, je vais essayer d'y arriver. Le premier, c'est les esthètes japonais. Le deuxième, c'est les chanteurs-poètes. C'était quoi le principe ? Quelle était votre idée au départ ?
Alors, l'idée initiale des recueils de la collection Fidelio, c'est de rassembler des auteurs contemporains qui racontent leurs premiers émois littéraires ou leurs liens intimes avec un écrivain fétiche qui les a profondément marqués. Et ou en l'occurrence pour chanteur-poète, un chanteur qui a une qualité littéraire.
Comment vous est venue l'idée de cette collection ? Vous-même, vous aviez envie de parler des gens que vous aimiez ?
Alors l'idée m'est venue en fait de mon associé Dominique Guillou, ancien rédacteur en chef du Figaro littéraire, qui avait créé une petite collection numérique sur un thème un peu voisin qui s'appelle Duetto. Il m'avait proposé d'écrire dans cette collection et je lui avais dit mais c'est super ta collection numérique, mais ce serait quand même mieux si on pouvait en faire une vraie collection éditée en papier chez un grand éditeur. Et du coup j'ai proposé à Dominique de travailler ensemble pour concrétiser ce projet et ensuite on en a discuté notamment avec Céline Toulouse, qui était à l'époque à Belfond, qui ensuite a rejoint Plomb, et grâce à qui nous avons lancé la collection chez Plomb, qui nous accompagne notamment avec l'éditrice aussi, qui s'appelle Pauline Ferniou, qui est en charge de la littérature française.
Vous avez cité tout le monde ? Vous êtes parfait pour... Et blague à part, c'est important pour vous de façon générale d'avoir cette démarche d'aide, de dire que de la reconnaissance à des grands maîtres anciens.
Bah, je pense que en particulier les écrivains, mais même tout, on a tous chacun de nous, on a admiré des artistes, souvent des auteurs, mais ça peut être aussi des chanteurs, d'où d'ailleurs le recueil sur les chanteurs poètes. Ça peut être éventuellement des acteurs, donc on a tous été marqués à un moment de notre vie, et notamment je pense à l'adolescence qui façonne beaucoup l'imaginaire et la personnalité de chacun d'entre nous par des figures un peu de légende, et donc il y a cette idée effectivement de liens intimes qui façonnent des auteurs d'aujourd'hui.
Mais c'est important de dire qui on a aimé, de faire presque cette... J'appelle ça une déclaration d'amour, c'est un peu fort, mais en tout cas de le dire publiquement, d'assumer qui a été une source d'influence.
Bah, ce qui est intéressant, c'est plutôt de trouver un angle un peu original qui fait le sel de cette collection. qui permet de découvrir ou de redécouvrir des auteurs classiques et de découvrir en même temps des auteurs contemporains par le biais d'une écriture très très intime, parce que on a par exemple un romancier comme Jérôme Attal qui raconte comment quand il était ado dans un car scolaire, il a entendu pour la première fois Serge Gainsbourg, qui le chauffeur ayant lancé « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Et ce qui est très émouvant, c'est que Jérôme raconte ensuite comment il a aimé, il a approfondi, il a écouté, il a découvert, il a visité aussi les lieux un peu de pèlerinage qui concernent Gainsbourg. Et lui-même est devenu, en plus de romancier, il est devenu parolier et a fini par écrire pour Jane Birkin. Et donc voilà, c'est,
là, c'est... La boucle est bouclée là.
Donc voilà, il y a des choses très 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 émouvantes, à la fois très intimes et en même temps très universelles, puisque encore une fois, chacun d'entre nous, je pense, a eu cette expérience de découvrir dans un autocar une certaine musique qui nous a marqué.
Pour ces deux premiers numéros, chanteur écrivain japonais, ça a été des évidences. Vous avez comment vous les avez choisis ces thèmes?
On avait un ensemble de textes déjà prêts. Et du coup, c'était relativement simple de compléter les recueils sur ces deux thématiques-là. Et on voulait aussi marquer une forme d'éclectisme, de montrer que des territoires très vastes pouvaient être explorés par ce biais-là. On aura dans les prochains deux thèmes extrêmement différents, un très classique, puisque ce sera les classiques du 19e, donc qui sortira en mai. Et en mai également sortira un autre recueil qui s'appelle Passion d'écrivaine. Et là, ce sont des autrices qui racontent leur lien intime ou la façon dont elles ont découvert des écrivaines presque devenues des classiques. Donc, par exemple, on a Catherine Cusset qui a écrit une petite nouvelle sur Annie Ernaux. On a des textes sur...
Virginia Woolf.
On n'a pas tout... Il n'y a que 5 textes par recueil.
Donc, Marguerite Duras.
Là, on a Duras, on a Nancy Mitford, etc.
D'accord. Justement, comment vous choisissez les auteurs? C'est des textes qui vous arrivent? Vous faites des appels à projets, puis vous attendez de recevoir des textes? Dans le milieu littéraire, c'est des rencontres des gens que vous croisez?
C'est des rencontres, parce que j'ai la chance de croiser de nombreux auteurs. Dominique Guillou, on connaît de nombreux également par son ancienne activité de rédacteur en chef de Figaro littéraire. Donc on a d'ailleurs un réseau d'auteurs extrêmement complémentaire, et moi j'ai croisé beaucoup d'auteurs quand j'ai fait
des salons
de livres, des signatures, des dédicaces. Donc j'ai
la vie des écrivains
donc j'en ai rencontré beaucoup d'auteurs plus émergents, et du coup ça fait un combo assez intéressant avec des auteurs très confirmés amenés par Dominique et moi des auteurs plus émergents ou plus emblématiques mais que j'ai eu la chance de croiser en salon, par exemple Catherine Cusset.
Dans le volume consacré au chanteur-poète, vous évoquez Jim Morrison. Dans celui sur les esthètes japonais, le texte porte sur Mishima. C'était des évidences, ces deux choix-là, ce sont vos deux idoles à vous?
Alors effectivement, j'ai eu aussi la chance d'écrire moi-même dans cette collection et dans ces deux recueils un texte sur Jim Morrison, un texte sur Mishima, et c'était effectivement des évidences, puisque ce sont deux figures qui m'ont profondément marqué. D'abord Jim Morrison, et je raconte à l'âge de 10 ans, j'ai découvert Jim Morrison.
Si je me souviens bien, c'était un jour où il pleuvait.
Alors, c'était pas exactement ce jour je raconte un jour où il pleuvait. C'était quelques années plus tard, je devais avoir 13 ans. Ah. Et effectivement, j'accompagnais ma grand-mère dans le village de son enfance, où on allait à la Toussaint se recueillir sur la tombe de la famille. Et j'écoutais au casque Riders on the Storm. Donc, c'était très, très, assez émouvant. Et c'est une journée qui m'a marqué, en effet.
Dans le premier, donc, vous parlez de Jim Morrison, c'est plutôt un texte sur l'adolescence. Celui sur Mishima évoque plutôt les jeunes années des adultes. Vous pourriez faire on pourrait imaginer un roman comme ça, où chaque période de la vie serait marquée par un auteur, où vous pensez, vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, c'est souvent à l'adolescence que vous pensez qu'il y a un âge où on arrête d'avoir ces espèces de passions pour un auteur. C'est peut-être très personnel, ça dépend peut-être des gens.
Alors je pense que ça dépend beaucoup des gens, et on a des textes, y a des, dans le Recueil Fidelio, de relations qui se sont nouées sur le tard. Par exemple, René Cecatti, qui est traducteur émérite de nombreux auteurs japonais en français, a par exemple traduit Kenzaburo Oe, qui a eu le prix Nobel, et il raconte ses échanges épistolaires, sa correspondance avec Kenzaburo Oe, mais du coup, qui c'est pas du tout une passion d'adolescence, c'est une admiration d'âge adulte, avec une dimension professionnelle également. Donc tous les cas sont possibles. Après, en ce qui me concerne, effectivement, c'est des rencontres fondatrices et qui ont... C'est une sorte de première fois, d'une certaine manière, et du coup, effectivement, ça arrive plutôt à l'adolescence.
Alors, les deux, il y a quelque chose de particulier avec Morrison. On voit très bien comment ça vous ouvre tout un univers. Vous citez Céline, Kerouac, Rimbaud, tous les autres, alors que Mishima semble plus une passion monomaniaque.
Oui et non. Donc, effectivement, grâce à Jim Morrison, j'ai découvert énormément d'auteurs, y compris d'auteurs français. J'ai lu Rimbaud parce que j'aimais Jim Morrison. J'ai lu Nietzsche parce que j'aimais Jim Morrison, Céline également.
C'est marrant quand même de découvrir Céline par l'intermédiaire de Jim Morrison quand on y pense à l'histoire littéraire très établie.
Bah, il se trouve que à un moment donné, Jim Morrison est devenu beaucoup plus populaire que Céline, et donc j'ai été touché en premier par un Jim Morrison. Et concernant Mishima. En fait, il m'a également fait découvrir un certain nombre d'auteurs.
Le Japon ?
Alors, il m'a fait découvrir le Japon, évidemment, et donc beaucoup d'auteurs japonais, mais j'ai également découvert des auteurs français par Mishima, puisqu'il était très, très érudit et en fait très occidental dans sa culture. Et il évoque dans ses textes Huysmans, par exemple, ou Raymond Radiguet, qui était... Mishima aurait pu écrire un Fidelio sur Radiguet.
Eh bien, la preuve, on va l'écouter tout de suite.
Y a-t-il un écrivain français qui ait eu une influence particulière sur vous ?
Oui, Raymond Radiguet, que j'admire beaucoup. J'ai lu Le bal du comte d'Augier, très jeune. Ce livre m'a beaucoup frappé.
Quelle est la situation de l'écrivain japonais dans la société contemporaine ?
La situation de l'écrivain japonais contemporain, la pire celle d'auteur français à l'époque d'Alexandre Dumas et Lémy Zola. Je voudrais parler en japonais.
Les Japonais sont longtemps restés fidèles à cette forme de roman publié en feuilleton par les journaux. Il y a 10 ans encore, il était courant de voir de grands journaux tirant à 5 millions d'exemplaires publier des romans de qualité en feuilleton.
Quelle est l'influence de la télévision dans la vie de l'écrivain japonais ? Est-ce pour lui un nouveau moyen d'expression ?
De nos jours, la classe moyenne au Japon est très influencée par la télévision. Elle a tendance à donner sa préférence au spectacle télévisé plutôt qu'à la lecture. Malgré tout, cette formule du feuilleton est tellement enracinée dans les esprits que les écrivains continuent à publier d'abord leurs romans dans les revues littéraires.
Voilà, il faudrait que j'apprenne un jour à poser les questions comme on faisait à l'époque. Et donc, c'était un extrait de La vitrine du libraire, une émission de l'ORTF qui date du 15 janvier 1966. C'est une très rare interview de Mishima en français. Et on trouve l'intégralité de cet extrait sur le site de l'INA. Et on mettra bien sûr le lien sur la page de l'émission La Relève sur le site Radio Campus Paris. Ça vous fait quoi d'entendre Mishima parler de Radiguet, justement ?
C'est très émouvant d'entendre cette voix que je ne connais pas, parce que je n'ai pas beaucoup regardé les vidéos, et surtout parler en français. Et quelle transition pour arriver à Radiguet comme ça. Donc bravo.
C'est toujours quelqu'un que vous lisez aujourd'hui, ou c'est resté un amour de jeunesse, j'ai envie de dire ?
Alors,
vous lisez peut-être plus de la même façon aujourd'hui, peut-être ?
Je relis de temps en temps quelques-uns des romans, et il se trouve que pour des raisons de droit, les ayants droit de Mishima ont accepté que soit publié un certain nombre de textes restés tabous et non traduits à l'étranger, en France en particulier, pour Parce que Mishima avait deux types de textes. Il y avait des textes très très littéraires qu'il appelait ses romans noirs, et puis des textes un peu plus commerciaux écrits pour des magazines féminins qu'il appelait, je crois, ses romans roses. Et ces textes-là, en fait, n'ont pas été traduits, ou en une minorité seulement ont été traduits. Et ils ont en fait d'énormes qualités. Alors, ils sont plus légers. Il y a moins de réflexion philosophique, etc. Mais en fait, ils ont d'énormes qualités littéraires. Et du coup, les ayants droit ont fini par accepter qu'ils soient traduits en France. Et donc, il y en a un certain nombre d'inédits de Mishima qui sont sortis très récemment. Par exemple, Vie à vendre, qui est sorti en 2020.
Qui est un peu un polar métaphysique. Un polar, que j'ai lu celui-là.
Un polar très psychédélique, même, c'est le terme. C'est très étonnant de découvrir ça, très très bien écrit. Et d'autres seront publiés dans le futur. Donc en fait, il y aura beaucoup à découvrir de Mishima dans les années à venir.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce que vous disiez, c'est que c'était des romans qui publiaient dans les feuilletons. Donc a priori, qu'on ne traduisait pas je sais même pas si on savait qu'ils existaient hors du Japon.
Oh, les érudits, ouais. Marguerite Yourcenar qui a écrit un texte, Mishima, la vision du vide, les évoquait, mais je ne crois pas qu'elle les ait lus.
Vous avez jamais eu envie d'apprendre le japonais ?
Si.
Et vous l'avez fait ?
Non. j'ai appris les...
Là, celle-là, vous n'avez pas réussi à trouver la discipline pour ?
Les kana, les hiragana, mais non, j'ai pas le temps,
c'est l'énergie.
Tellement long, tellement difficile.
Et... Alors, pourtant, ce que vous racontez, c'est que vous découvrez en cours, dans le texte esthète japonais que vous consacrez à Mishima, vous racontez la découverte de la traduction assez étonnante d'Amours interdites, qui serait finalement de restraduire par Couleurs interdites.
Alors ça, c'est un bon débat de traducteur. En effet, il y a un roman intitulé Les Amours interdites en français, et j'ai découvert au Japon, puisque j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois le Japon, et en traînant dans les librairies, j'ai découvert, je suis allé au rayon Mishima, voilà, et donc j'ai découvert des titres en anglais assez intéressants, et en particulier, je me suis aperçu que ce roman Les Amours interdites était traduit en anglais par Forbidden Colors, et ça m'a beaucoup étonné.
Donc vous avez cru au début que c'était un nouveau, peut-être ?
Non, j'ai vite vu que c'était le même, mais j'ai trouvé que cette traduction Forbidden Colors était très poétique, très très intrigante, assez, alors que Les Amours interdites c'est plus direct, et j'aimais bien le flou de cette traduction, voilà, Forbidden Colors. Et à Paris, des années après, j'ai eu la chance j'ai contacté en fait René de Tchekati, qui était le traducteur des Amours interdites, parce que cette question me turlupinait depuis des années. Et donc je suis allé le voir, on est allé dans un hôtel, le café d'un hôtel qui est très littéraire, qui s'appelle l'Hôtel d'Aubusson. Et je lui ai posé cette question, et il m'a dit mais non, Les Amours interdites c'est beaucoup plus précis, parce que tous les Japonais comprennent avec le mot kinjiki, qui est le mot japonais, qu'on parle de sexualité, même si au sens littéral on pourrait parler de couleur. Et donc c'est pour ça qu'il a choisi, avec son ami japonais, c'est une traduction à deux mains, cette traduction plus précise d'amours interdites.
Alors, il y a aussi beaucoup d'humour dans vos deux textes. Vous aviez volontairement voulu mettre un peu de légèreté, parce que on pourrait croire, là, à nous écouter, que c'est un essai littéraire. C'est aussi un récit d'apprentissage. Je pense notamment à celui sur Morrison. Il y a une histoire qui m'avait beaucoup fait rire quand je l'ai lu. C'est quand vous retrouvez dans une histoire. Enfin, c'est un peu, là aussi, un peu psychédélique, une histoire un peu absurde, où vous vous retrouvez à devoir faire un témoignage et vous prenez pour un écrivain. Et l'avocat vous dit ton témoignage, il vaut rien.
C'est un peu pour me moquer de.
L'espèce d'adulation qu'on peut avoir quand on est adolescent, l'espèce d'exaltation d'adolescent.
Oui, une prise de recul aussi sur les maladresses qu'on fait à cet âge-là, et que j'ai faites. Et du coup, moi je suis effectivement un des personnages de ces petites histoires, et parfois un peu tête à claque, et du coup on a envie de se moquer de moi.
Très bien, un peu de musique. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown,
like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm.
Voilà, c'était Riders on the Storm de Jim Morrison. C'est tellement beau qu'on n'ose pas le couper.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Nicolas Godemet. Vous êtes responsable de la publication de Destet japonais et de chanteurs japonais dans la collection Fidelio chez Plomb. Là, pendant que vous écoutiez, c'est, j'ai envie de dire, ça vous fait voyager dans le temps quand vous réentendez ce morceau ?
Ah bah oui, ce morceau, je l'ai beaucoup écouté, et en particulier ça m'a fait voyager dans cette scène que je décris dans le roman où il pleut, et il pleut dans mon casque parce que j'écoute, et en fait il pleut dehors aussi, c'est la Toussaint, et j'ai 13 ans, et avec ma grand-mère on visite le cimetière où sont enterrés, où est enterré son père et ses ancêtres. Et donc c'est très c'est, et moi je m'éveille un peu à la vie et du coup c'est très très émouvant.
C'est très fort pour vous visiblement. On va parler pour le peu de temps qui nous reste de votre activité d'auteur, Nicolas Godemé. Vous avez écrit vous la fin des idoles. Quel rapport entre votre livre, qui est un livre plutôt drôle, enlevé, et Mishima ou Jim Morrison ?
Il y a un lien très très fort avec Jim Morrison, parce que La fin des idoles, c'est un roman aussi...
Qui parle quand même de télé-réalité, c'est un peu...
Alors, qui parle de télé-réalité, mais qui est aussi assez philosophique, et La fin des idoles, c'est quand même une référence assez, assez directe à Nietzsche.
Lui, c'était le crépuscule.
Et à la philosophie, et Nietzsche me vient de comme je le disais tout à l'heure, de Jim Morrison. Donc, il y a un lien assez fort. Il y a un autre lien qui est lié au thème de la fin des idoles, c'est quand même... les obsessions adolescentes qu'on a pour des célébrités qui sont exacerbées, alors dans la fin d'isole, qui sont exacerbées par les médias, le système médiatique, les réseaux sociaux, etc. Et je raconte une révolution contre ce système-là. Mais finalement, tout ça m'a aussi un peu été inspiré par mes propres obsessions pour la célébrité d'Andy Morrison ou dans un autre domaine d'un Mishima qui était une star un peu excentrique au Japon.
Je crois que Jim Morrison avait dit une phrase du genre « Pour être célèbre, il ne faut pas avoir quelque chose en plus, il faut avoir terriblement manqué de quelque chose. » Je crois qu'il a dit une phrase dans ce genre-là.
De toute façon, il y a une notion de... L'envie d'être célèbre, c'est le désir de reconnaissance. Et dans désir, il y a manque, par définition.
Moi, quand j'ai lu, je trouvais qu'il y avait une matière formidable pour une série. C'est à l'ordre du jour. Vous essayez, vous n'avez pas du tout essayé. C'est un monde trop compliqué.
Il y a une série audio, puisque ouais. La fin d'Idole a été adaptée par U-Books Next Story comme une série audio de 7 épisodes de 12 minutes chacun. Et d'ailleurs, j'ai moi-même écrit le scénario de cette série, parce que ce n'est pas du tout un livre lu. C'est vraiment une série jouée par 20 comédiens.
Comme un feuilleton,
oui.
Très bien. Vous travaillez sur un nouveau roman ?
Oui.
Ça a un rapport avec Mishima ?
Oui.
Avec Mishima, vraiment ?
Ça a un rapport avec Mishima, tout à fait.
On ne veut pas en savoir plus ?
Pas pour le moment.
Moi. Bon, tant pis, alors on attendra et puis on vous lira avec plaisir. Je rappelle donc que Nicolas Godemé, vous êtes donc notamment l'auteur de La fin des idoles et puis vous co-dirigez, on peut dire ça, avec Dominique Guillou, une collection chez Plon qui s'appelle Fidelio, dont les deux premiers tomes portent l'un sur les esthètes japonais, le second sur les chanteurs-poètes, et il y en a deux arrivés, un sur les écrivains du 19e siècle et l'autre sur les autrices, c'est ça ?
Exactement, pas voilà. Sur l'écrivaine.
Très bien, ben merci beaucoup.
Merci.
Je crois qu'il y a un signe que je devais faire, que j'ai oublié de faire. Pardon au réalisateur Mika. C'était produit, présenté par Christophe, c'était La Relève. Aujourd'hui, donc, on recevait Nicolas Godemé. Vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève à 19h. Vous retrouvez la matinale de Radio Campus qui est présentée ce soir par quelqu'un de très bien, mais que je ne connais pas encore. Bonne soirée.